Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards?
C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec pension. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Et moi, je trouve ça vachement panda.
Salut à tous et à toutes, c'est Flo, alias Starflord, et bienvenue dans le Must du Must, le podcast de recommandations pop culturelles. Aujourd'hui, on va se friter, on va se mettre des petits nions là, on va se battre là, on va s'échauffer, on va faire des trucs là, tu sais, la bagarre, tu sais, le combat, tu vois, on va se battre.
La bagarre.
Ouais, la bagarre. Voilà, oula, ils sont chauds, ils sont déterminés, voilà, là, calmez-vous, calmez-vous. On va discuter ça sur un ring, hein, ça fait pas. Et du coup, bah, on va commencer par... celui qui est le serviteur du feu secret, détendeur de la flamme d'Anor, le feu qui lui servira à rien, flamme de Dune. J'ai pris réplique, fille, combat, et du coup, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est le Seigneur des Anneaux. Du coup,
ça moi, je trouve que c'est parfait, ça introduit bien Pierre, on est parfait là.
Bah voilà, Pierre, le serviteur du feu sacré. Salut.
Bonjour, je suis Gandalf.
Il est très impressionnant, il fait très peur. Mais en face de lui, c'est l'élu, c'est celui qui doit rétablir la paix dans la force. Mais pas à la condamner, n'est-ce pas, Erwan?
J'étais l'élu, c'était moi! Je devais pas finir en barbecue!
Oui, c'était toi! Fallait pas finir en merguez! Et moi, bah, le créateur du podcast, voilà, je me suis même pas trouvé d'autres.
Le président de l'univers.
Le président de la galaxie, c'est vrai, c'était mon nom de rôle sur ce serveur Discord. D'ailleurs, serveur Discord qui existe et que vous pouvez rejoindre, voilà, belle transition, parce que du coup, le lien est disponible sur le Linktree dans la description. Vous l'aurez compris, le thème de cet épisode est la bagarre. Après Street Fighter VI, Mortal Kombat 1 et Tekken 8 qui viennent à peine de sortir, le jeu de combat se refait une beauté. Mais ça n'empêche pas que d'autres licences arrivent comme Grand Blue Fantasy vs Rising, j'ai réussi à le dire en une fois, ouf, et il y a plein d'autres petits jeux à venir qui nous font rappeler que le jeu de combat c'est cyclique. À un moment donné on y joue, après on s'arrête, et en fait ça revient des années plus tard parce que... bah faut savoir que la baston c'est vachement bien en fait. Mais en jeu vidéo, et en film, et en bouquin, et en fait c'est un peu partout la bagarre. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on parlerait pas de trucs qui abordent le combat, tout simplement? Et pour ça, je vais commencer par Pierre.
Bonjour, alors mon must c'est un documentaire, et c'est un must qui à tiroir, bah, parce qu'il va vous permettre de découvrir plein de choses derrière.
So you're Bruce Lee?
Yes.
Mohemo, how are you? The one to be.
It was the golden time of the filmmaking.
Cut!
Ce documentaire est un documentaire plutôt récent, sorti en 2023, donc l'année dernière, un documentaire américain qui s'appelle Enter the Clones of Bruce, qui du coup est un documentaire qui parle de la Bruceploitation, donc l'exploitation de l'image de Bruce Lee après sa mort. Et du coup, bah, c'est un film qui va retrouver des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, des diffuseurs... de ces films avec les clones de Bruce Lee, et d'ailleurs il va même avoir des interviews avec certains d'entre eux, donc Bruce Lee avec un I, Bruce Lee, Bruce Lee, Dragon Lee, bref, des pseudonymes super drôles, et des mecs qui sont parfaitement honnêtes dans leur rapport au cinéma, mais hyper sincères dans leur rapport aux arts martiaux. Parce qu'ils disent « Ok, oui, à l'écran, j'étais une fraude parce que j'étais juste un mec qui imitait Bruce Lee. Par contre, mon Kung Fu, c'était du vrai, c'était pas du chiqué parce qu'il y avait tel esprit, il y avait telle forme, il y avait tel style, etc. etc. » Et le documentaire est assez fun dans le sens où... où il y a pas mal d'extraits et puis ça présente vraiment les différents films de Bruceploitation en français, avec des scénarios parfois très très cons. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire pour découvrir des films avec des pseudo-Bruce Lee, mais c'est n'importe quoi, les scénarios.
Bah, sachant que moi, le seul qui me vient en tête de Bruceploitation, c'est Bruce Lee, parce qu'il a eu un impact en France, notamment.
Oui, mais en soi, ils ont tous eu un impact en France, aux États-Unis, en Allemagne. Alors, en France, y a un passage du documentaire qui est assez intéressant, qui est pourquoi la Bruceploitation n'a pas trop marché en France. C'est parce que les diffuseurs en France étaient assez froids vis-à-vis de promouvoir un film avec Bruce Lee, mais sans Bruce Lee.
Bah, déjà d'un point de vue éthique, oui ça se discute déjà. Donc,
ouais, complètement l'inverse de Sony, finalement, qui promeut des films Spider-Man sans Spider-Man.
Merci.
Merci pour cette implication dans l'actualité.
Tu te balles pas perdu.
Oui. Alors que, par exemple, en Allemagne, l'office de l'un des grands diffuseurs de films allemands disait, bah, pour nous, Bruce Lee en Allemagne, ça, bah, ça correspondait pas forcément à l'acteur, ça voulait dire arts martiaux. Donc on est vraiment sur du cinéma d'exploitation pure et dure, et les réalisateurs et les producteurs hongkongais avec les acteurs te disaient, les films ont tourné ça en mode sans autorisation, en une journée. On enchaînait, on faisait une prise et puis on se barrait, bah, parce qu'il y avait les flics qui arrivaient. On se pétait des bras, mais c'est pas grave, on continuait.
Ah, ça c'est fou quand même.
Ah, mais...
De se dire que on le fait.
Oui.
Tu sais quoi, on le fait, même si je me suis pété un truc et que ça mérite une hospitalisation, c'est pas grave, on le fait. C'est dingue.
Bah, c'est surtout que c'est pour des raisons financières. C'est les mecs étaient bien payés, mais disons qu'en termes de thunes, c'était pas Hollywood, quoi. C'était quand même des films avec des budgets un peu serrés. Et lorsqu'ils se pétaient des trucs, il y a l'un des acteurs clones de Bruce Lee qui a dit, bah, c'est un studio qui m'a repéré parce que bah, je faisais des arts martiaux, j'étais bon, et puis je ressemblais vite fait à Bruce Lee. Ils m'ont proposé un rôle, j'ai dit ok. Et premier jour de tournage, première scène de combat, bah, je pète la gueule aux cinq mecs avec moi, bah, parce que j'ai fait du vrai kung-fu et pas du kung-fu de cinéma.
Et après, il y en a qui vont se plaindre des scénarios de John Wick, alors que là, vraiment, t'as un mec, il est fort, il tape des gueules, voilà.
Alors, mais vraiment, dans les scénarios, le film, ils en parlent de plein, ou c'est n'importe quoi, ou t'as un film qui s'appelle The Clones of Bruce Lee, où en fait, c'est trois clones de Bruce Lee qui combattent ensemble, et sachant que les mecs ont tourné ensemble une après-midi, sur trois semaines.
Oh, c'est fou.
Mais t'as des films, t'as la résurrection du dragon, où c'est Bruce Lee en enfer qui se tape contre des monstres du cinéma, c'est n'importe quoi.
Donc tu as peut-être dit, j'ai dû passer à côté, mais en fait, l'initiative de la Bruceploitation, c'est à la base, c'est parce qu'il y a vraiment un mec qui s'est dit, je peux remplacer Bruce Lee, et du coup, je suis vraiment Bruce Lee, je suis son sosie, ou c'est vraiment les producteurs qui se sont dit, là, on a peut-être un filon.
Non, c'est vraiment les producteurs, parce que les acteurs, c'était pour la plupart juste des mecs qui faisaient des arts martiaux, qui en faisaient un très bon niveau, dont certains qui en vivaient. Mais c'était des mecs qui n'étaient pas du tout acteurs de base, et puis vraiment, on les a pris parce qu'ils ressemblaient vite fait à Bruce Lee. Et la Bruce Plot.
Oui, c'est ça. Okay.
Et la Bruce Plot.
Ouais, comme les sosies de Johnny maintenant, quoi.
Ouais, un peu, c'est ça.
Et... Ouais, mais est-ce que t'as beaucoup de films de sosie de Johnny, j'ai envie de te dire.
Oui,
ouais, ah bah non, et c'est bien triste.
Mais
en vrai, je veux revoir Johnny, mais bon, bref. Ouais. Non, mais c'est ça que je trouve terrible, c'est que te dire, en fait, c'est un truc qui est bah, très très sale dans l'esprit, et du coup, tu te dis, ouais, ben bah, là, on a vraiment créé un marché, on a créé un genre quasiment, et... heureusement qu'on n'a plus de ce genre de truc-là, mais à l'époque, ça devait être terrible, parce que... Est-ce que ces films ont eu un succès? Si on en parle, pense que oui.
Alors, le film l'explique bien. Bah, en soi, il explique aussi comment est née la Bruceploitation. C'est du fait que Bruce Lee est mort plutôt jeune, à 34 ans.
Ouais, le choc, ça a dû être à l'époque aussi.
Il est mort jeune, au sommet de sa gloire, de façon un peu mystérieuse, tu vois. Donc, en plus, il y avait tout. Et surtout, bah, les gens... En fait, Bruce Lee a permis au cinéma hongkongais de s'exporter partout dans le monde. Et lorsqu'il est mort, bah, les quelques films qui sont sortis après ne marchaient pas du tout, bah, parce que les gens voulaient voir Bruce Lee et pas mec random de Hong Kong, tu... Et ouais, du coup, bah, les mecs ont réfléchi pendant quelque temps à se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on remplace Bruce Lee. Et c'est d'ailleurs l'ouverture du film de comment est-ce qu'on est passé de la post-plotation au film hongkongais. Bah, c'est plus ou moins avec Jackie Chan qui a permis de faire cette transition en passant, en rajoutant beaucoup de comédie. Parce que même si... alors, il y a certains films de Brosploitation qui sont des comédies, mais la plupart, c'est juste des films nuls, avec un scénario où c'est du grand n'importe quoi, mais où les mecs sont hyper sérieux, tu vois. Et la Brosploitation a commencé avec des faux biopics sur Bruce Lee. Et du coup, le film aborde plein de trucs, et c'est assez intéressant. Et c'est en ça que je dis que c'est un must à tiroir, parce que de ce documentaire, Hunter the Clones of Bruce, vous allez découvrir tout un pan du cinéma hongkongais des années 70, début 80, hyper riche et assez drôle en soi.
Ok, ok. Et ça, c'est accessible quelque part?
Alors, moi, je l'avais vu dans le cadre d'un festival sur Grenoble. Alors, j'ai pas dit le nom du réal, mais c'est David Gregory, mais après, je sais pas trop ce qu'il a fait, donc j'en ai pas trop parlé, mais a priori, il se trouve, vous devrez le trouver, parce qu'il a fait quand même plusieurs festivals, il a une page IMDb et Allociné, il y a des trailers, vous devrez le trouver. Sans trop de difficultés.
Ok, d'accord, donc rappelle-moi le nom, c'est...
Hunter the Clones of Bruce.
Ok, moi ça me donne très envie parce que déjà dans un premier temps j'ai pas vu tous les Bruce Lee, mais ça c'est un... j'en ai des souvenirs par rapport à mes parents notamment en fait qui aimaient ça, voilà, il y a une certaine nostalgie de la nostalgie, tu vois, qui parle et qui fait que j'ai appris il y a quelques années en fait que ouais, il y avait tout un mouvement sur l'exploitation de Bruce Lee, qui est désastreuse, mais qui était surtout abordé par Nan Arland dans une de leurs chroniques à l'époque où ils faisaient des vidéos, et ils en ont même fait du coup un épisode de leur podcast Nan Arland. Et c'est vrai que quand t'écoutes en fait tous les processus, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on te montre, etc., tu te demandes mais pourquoi ça existait en fait. Mais c'était pour combler un manque et surtout pour surfer sur un business. Donc c'est une des choses les plus controversées et intéressantes, je trouve, dans le milieu du cinéma, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant que tu en aies parlé. Je pourrais même rajouter un must, mais tu en as parlé vite fait, c'est le festival auquel tu allais, du coup, c'était bien ou pas?
Oui, le Maudit Festival de 2024, Maudit Festival... ou le festival des maudits films sous son ancien nom, donc festival du cinéma bis, cinéma Z, grenoblois, très bonne édition avec pas mal de pépites cette année, alors notamment d'autres films dont je parlerai sans doute plus tard. Alors pour la bagarre, j'avais hésité avec The Heroic Trio, donc un film hongkongais, plus récent, avec Michel Yue, jeune, dans un costume en lycra moulant qui tape des bouches et qui est porté par des câbles.
On te montre que ça rentre.
Voilà. Mais ouais, donc, plus d'autres films que je réserve
pour les prochains épisodes.
Voilà.
Carrément, ok, écoute, moi ça me botte, et puis j'ai bien envie de me caler, de regarder ça. Toi, t'en penses quoi, toi?
Franchement, ça a l'air super intéressant. Faut que je vois si j'arrive à trouver ça, mais non, ça a l'air super cool. Mais moi, j'aime bien un peu tout ce qui est documentaire sur un peu tout ce qui est les dessous du cinéma ou de l'exploitation, des trucs comme ça. Je trouve toujours ça super intéressant.
Après, surtout, c'est que c'est un documentaire américain, donc c'est un montage qui est un peu speed, qui est un peu nerveux. Voilà, c'est pas un petit documentaire chill, c'est vraiment...
pas du Agnès Varda, quoi. Tout mon respect à Agnès Varda, hein, mais j'aime pas ses films.
c'est pas vraiment du documentaire, mais bon, ça
c'est pas le même registre.
C'est pas le même registre. Voilà.
Alors, franchement, ose me dire qu'un documentaire sur les sosies de Johnny Hallyday par Agnès Varda, ce serait pas incroyable.
Ah, je serais pas content, ouais. Ok, bah merci beaucoup pour ton must.
Avec plaisir.
On va échanger les coups et du coup, c'est à Erwan de riposter avec son must.
Ah, et bah ça tombe bien que vous parliez de clones. Parce que figurez-vous que, comme vous, pour ceux qui écoutent ce podcast depuis un moment et qui l'ont peut-être enfin compris, je suis fan de Star Wars. Peut-être un peu beaucoup.
Ah bon ?
Jure.
Bah parle de ce que t'avais prévu à la base, parce que ça m'intéresse. Et après, parle vraiment de ton must. Parce que...
Non, à la base, je voulais parler du petit fangame Star Wars Combat, qui était un jeu de combat Star Wars développé par un mec tout seul dans son jardin et qui est super classe. Mais moi, je vais vous parler plutôt d'autre chose, parce qu'on n'a pas encore parlé de jeux de plateau dans cette émission, du coup, je vais vous parler de Star Wars Shatterpoint.
Yes!
Qui est un jeu de plateau développé par Atomic Mass Game et distribué par Asmodee en France, et qui consiste en de la bagarre à deux escouades, donc deux escouades contre deux escouades, où le but c'est de capturer des points et de se taper sur la tronche. Et pourquoi c'est important de parler de clones du coup, puisque actuellement les boîtes Empire Galactique ayant été retardé, pour l'instant, toutes les boîtes existantes sont des boîtes de la guerre des clones, pour revenir aux clones.
Ah, d'accord. Subtil.
Malin.
Subtil.
Voilà, et du coup, alors Star Wars Shatterpoint, du coup, bah, c'est Florian qui m'a fait découvrir ça, hein, justement.
Je suis le responsable.
Voilà,
je suis le dealer.
C'est espèce de monstre.
C'est à cause de toi qu'aujourd'hui j'ai dépensé 45€ pour acheter le général Grievous.
Ouais, monstre. Là vous la vie elle est meilleure maintenant, tu te détends quand t'es stressé, voilà. Bon, faut que t'apprennes des règles là, c'est tout, mais.
Bah, voilà. Faut que j'apprenne à. Non, maintenant en plus je vais pouvoir peindre pour me détendre, tu vois.
Mais ça, du coup, en fait, pour le coup, c'est intéressant parce que j'avais déjà parlé d'un truc qui se rapproche un peu de ça, je sais pas si vous savez, Warhammer dans un ancien épisode, et où j'avais abordé brièvement la peinture, etc. Bah, sachez qu'en fait. La peinture sur figurines et qui sont également des jeux, ça existe dans plein d'autres licences, et forcément Star Wars avait déjà mis la patte dedans. Il y avait Star Wars Légion notamment.
Oui, qui est fait par les mêmes Légion, qui est fait par les mêmes développeurs d'ailleurs.
D'accord, ok. Donc ça, je ne savais pas pour le coup. Parce que Légion, du coup, on est sur un jeu beaucoup plus...
Oui,
bah, c'est un wargame.
Légion,
hein,
c'est du vrai wargame avec des grosses escouades où tu te bourrines la gueule.
T'es parti 3 heures, voilà.
Voilà, là, Shatterpoint, c'est des, comme c'est de l'escarmouche, c'est des trucs qui sont programmés pour être joués en 1h30, 2h, globalement.
Ce qui est déjà très bien, en vrai.
Ce qui est déjà très bien. Hein. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est des groupes limités. Hein. Vous aurez toujours maximum 4 figurines grand max par escouade. Après, comme vous avez toujours 2 escouades, vous faites le calcul, ça vous fait 8 figurines grand max par groupe de combat.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe
Oui, bah alors c'est très simple. Du coup, alors pour vous lancer, le plus simple, c'est d'acheter la boîte de base, hein, évidemment, qui vous donnera deux escouades séparatistes, deux escouades républiques. Enfin, c'est pas vrai. Il y a une escouade. Bref, on va pas détailler en détail, sinon ça durerait 5 heures.
Oui, mais c'est pas si. Voilà.
Et après, il y a plein de boîtes que vous pouvez racheter, où chaque boîte contient, à quelques exceptions près, une escouade complète. Donc après, ça va être à vous d'acheter les boîtes pour faire vos escouades comme vous voulez, pour synergiser comme vous voulez, puisque c'est un jeu qui repose beaucoup sur, comme je l'ai dit, comme on a deux groupes de combat, sur de la synergie. Donc faire des escouades qui vont bien ensemble et qui ont des mots-clés qui s'associent pour utiliser les compétences. Moi, j'ai récemment découvert une petite synergie bien sympathique qui fait qu'il faut que j'achète deux boîtes là pour me faire une petite escouade un peu fumée.
Ah, ça y est, la drogue.
Ah, bah écoute, moi, le fait que quand j'active le compte Doku, je puisse déplacer toute mon armée d'un coup, je t'avoue que c'est pas mal.
J'avoue, c'est vrai que ça, c'était un de mes meilleurs achats.
C'est une compétence qui est un peu pas mal, hein, on va pas se mentir.
Et l'équilibrage est à chier.
Bah, l'équilibrage est un peu c'est le gros défaut du jeu à l'heure actuelle, c'est que l'équilibrage est un peu mauvais et qu'il y a globalement une faction qui est beaucoup plus forte que les autres, la CSI, puisque la CSI est une équipe, parce qu'en fait, comme c'est un jeu qui repose beaucoup sur la capture d'objectifs et sur la défense d'objectifs par la suite, et du coup, tabasser les ennemis pour reprendre les points, bah, dès qu'on a des escouades qui ont beaucoup de compétences qui permettent de se repositionner tout de suite, bah, c'est un gros avantage.
Même League of Legends, un meilleur équilibrage.
Bah, parce que après, chez la République, il y a du repositionnement aussi, sauf que ça consomme de la force. Et c'est le problème globalement quand tu joues la République, c'est que c'est des trucs où tu as beaucoup, tes points de force crament très vite. Et c'est pour ça que. Mais après, il y a aussi un problème qui, ça, est dû uniquement à la version française, qui est que comme tous les wargames, les jeux comme ça, il y a souvent des mises à jour des règles pour ajuster par rapport à certaines choses. Sauf qu'elles ne sont disponibles qu'en anglais et que le site français ne les. Enfin, l'éditeur français ne les retraduit pas. Voilà, voilà.
Ah!
Par exemple, vous saurez qu'il y a des effets qui ont pété dans la dernière mise à jour. Hein. Il y a des effets qui n'existent plus maintenant.
Ah, donc il va falloir réimprimer les feuilles, tout ça.
Voilà, donc... mais c'est comme tous les jeux quand il y a des patchs, quoi. Sauf qu'en fait, bah, les patchs, ils sont pas dispo en français, quoi. Faut aller sur le site, faut aller les chercher sur le site de Atomic Mass Game et se démerder. Mais sinon, voilà, pour la bagarre, c'est de la bagarre tranquille, entre potes, pour s'amuser un peu. Sachez que pour l'instant, j'ai un ratio négatif, hein. 3 games, 3 défaites, mais on est là, on s'accroche.
Et on y croit.
C'est un truc que j'ai envie de dire, quand tu te lances dans le wargame, ne joue pas du tout sur l'aspect ratio méta.
Ah oui,
parce
non, mais
que
je sais, mais je rigole.
Tu t'abuseras pas, quoi, clairement.
Non, mais
moi,
en vrai,
j'apprends...
c'est comme je dis, c'est que comme c'est un jeu en fait, qui nécessite que tu joues beaucoup pour que tu trouves des combinaisons qui marchent et qui te permettent de faire des trucs, c'est que là, à partir du moment, là, j'ai fait beaucoup. En fait, le problème, c'est qu'actuellement, j'ai beaucoup. De... Enfin, j'ai 5 escouades, mais j'en ai aucune qui synergise vraiment correctement. Quand j'aurai déjà acheté mon Grievous, j'aurai déjà 2 escouades qui synergisent, ce sera déjà beaucoup mieux et beaucoup plus pratique.
D'ailleurs, il va falloir qu'on parle de ça aussi, parce que j'imagine que Grievous étant déjà un beau personnage, et donc la figurine, je l'imagine déjà glorieuse, bien peinte, etc. Mais l'autre gros défaut majeur que j'ai envie de dire, c'est que si tu te déplaces souvent avec tes figurines, va peut-être falloir faire gaffe à leur petit sabre laser, parce que...
Ah bah ouais, mais ma Ahsoka, elle n'a pas supporté le déménagement, là, elle n'a plus de sabre.
Ah ouais, je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout, là? Et en fait, ouais, elle a perdu ses sabres. Donc ouais, ça, c'est un peu un défaut, mais bon, après, ça fait partie de
sa ouais, mais ça, après, faut acheter des housses de transport, après.
C'est ça, parce que...
J'investisse dedans.
Parce qu'il y a des astuces, comme je te disais, notamment, c'était de prendre de la green stuff. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la green stuff, en fait, c'est notamment de la pâte, en fait, à modeler, qu'il faut mélanger avec une autre pâte qui est inclue, que vous... vous allez malaxer, etc., jusqu'à avoir une couleur uniforme, et avec ça, vous pouvez modeler ce que vous voulez. Et là, on rentre carrément dans de la sculpture, en fait. Et je pense que c'est pas impossible de faire ça avec de la clean stuff, donc il faudrait qu'on voit ça ensemble. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, ce qui est génial aussi avec un jeu comme Star Wars, comme Warhammer, c'est qu'il y a ce côté, justement, manuel, dans le sens où tu vas déjà coller ta figurine, l'assembler, la peindre, et du coup, tu vas apprendre plein de notions... presque art plastique, en fait, où tu vas vraiment faire un peu ce que tu veux, et si jamais t'as toujours un petit pépin ou quoi que ce soit, tu vas toujours trouver un truc pour réarranger ta figurine, en fait. Et c'est ça que je trouve trop bien, en fait, avec les jeux de figurines maintenant, c'est que vraiment t'as ce côté débrouille et entraide mutuelle avec les gens qui sont fans, etc. Suffit de se renseigner un petit peu, mais c'est pour ça qu'on parle de hobby aussi, parce que c'est tellement dévorant comme passion que t'apprends tout le temps quelque chose, en fait, quand tu te mets à fond dedans.
Exactement. Et du coup, pour terminer sur ce must, pour pas accaparer tout le podcast, alors, deux choses que je peux dire, c'est qu'un autre truc qui est bien, c'est que les figurines, enfin, tout le jeu est illustré et chaque personnage a des illustrations et que les illustrations sont sublimes. Voilà.
Oui, déjà, oui, ça c'est très très bon.
Elles se trouvent facilement sur internet et les illustrations sont magnifiques. Et après, si jamais vous voulez vous lancer dans le jeu ou quoi que ce soit, eh ben, y a une grosse commu autour.
Ouais.
Voilà, j'ai rejoint le Discord il y a pas longtemps, le Discord officiel fait par la commu française. Voilà, il y a beaucoup de monde qui s'entraide sur quand on a des problèmes pour les règles, pour s'entraider, pour se donner des conseils pour la peinture des figurines, tout ça. Donc voilà, c'est super sympa.
Ouais, franchement, c'est cool. Et puis, c'est de l'escarbouche, donc c'est très accessible. C'est pas aussi compliqué que Warhammer.
Voilà, en fait, il y a beaucoup de règles à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'effets et d'arbres de combat
ouais.
Et de comprendre comment ça marche. Mais une fois qu'on a... Mais après, pour ça, il y a l'aide de jeu qui est faite par la communauté, qui est quand même vachement pratique, qui répertorie tous les effets et tout ce que ça fait.
Ouais.
Et puis, c'est peut-être mieux traduit que le jeu de base.
Oui, parce qu'il y a aussi plein de problèmes de traduction sur le jeu, mais ça, c'est Asmodée, je pense.
Parce que nous, en fait, pour revenir dans le contexte, c'est que nous, on avait fait une partie à 4, Donc, grosse soirée en perspective.
Voilà. Et sachant que normalement, ça se joue à deux. On avait joué à quatre. On s'est dit, une escouade chacun, ça passe. Et ça passe en vrai. Mais...
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Imaginez une petite escouade. Moi, j'avais Doku. J'étais avec qui? J'étais avec,
Moi, avec moi qui avait 4 Bane.
Ah non. Oui, c'est ça. Oui, t'avais 4 Bane. Et en face, on avait.
Maul et Ahsoka. Ventress et Ahsoka.
Ouais.
Ouais, Ventress. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, tu vois, on s'en foutait, mais on fait littéralement ce qu'on veut, quoi.
Bon, après, ça marchait pas trop mal, mais. Parce qu'on n'avait pas compris les règles.
Ouais, mais puis t'avais, puis il y avait toujours ce problème d'équilibrage, Pierre, qui est que tu jouais la CSI, donc t'étais avantagé.
Oui, aussi.
Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un jeu qui crée beaucoup de dialogues. Et du coup, c'est... Enfin, je sais pas, il y a un truc très naturel, en fait, dans ce genre de jeu. Puis voilà, enfin, vraiment...
Après,
si
voilà,
vous avez une boutique,
pardon,
renseignez-vous, quoi.
Je te laisse finir.
Non, ce qui est pas, c'est juste pour dire, si vous avez des boutiques à proximité qui font... de la vente de figurines ou quoi, normalement vous avez droit à des essais gratuits et allez-y quoi, franchement c'est un bonheur quoi.
Voilà, mais après comme c'est un jeu, après c'est un jeu qui nécessite que tu saches à peu près ce que tu joues et que tu connaisses vraiment les effets de tes personnages et de tes cartes.
C'est ça.
Parce que tu as en moyenne 6 cartes de perso par groupe de combat, il faut que tu saches à peu près qui fait quoi dans quel contexte, quel effet peut te servir à faire quoi, parce que sinon ça devient vite long et vite compliqué. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des équipes qui synergisent bien de base. Mais ça, après, je crois que c'est un peu le concept de tous les wargames. Après, passer à un moment donné, voilà.
Ouais, c'est ça. De toute façon, chaque jeu a leur subtilité, leurs propres termes, etc. Ça demande un certain investissement, on va pas se mentir. Mais je trouve que justement, Star Wars Shatterpoint, ça reste, en dehors de son point de traduction, ça reste quand même un des jeux de figurines slash wargame slash jeu d'escarbouche.
Les plus accessibles.
Ouais, carrément.
Oui.
Et je tiens à préciser que c'est un jeu récent, voilà, pour finir.
Ouais, en plus.
Qui est sorti, qui existe depuis le mois de juin. Et du coup, on est qu'au tout début de l'exploitation. Hein. Il y a les premières... Là, on va avoir la deuxième phase de boîte qui arrive au mois de mars.
Hein. Ah, bah d'ailleurs, je suis né en mars, voilà. Bref. Vous savez quoi faire. Non, mais bon, en fait, j'ai vu le pack où t'as un R2-D2. En mode serveur avec cocktail machin, comme dans Star Wars épisode 6.
Les squads palais de Jabba là avec Luke.
Voilà, juste ce R2-D2, gentleman, je le veux quoi, vraiment, ça a l'air incroyable. Non mais c'est très bien. Mais écoute, merci Erwan pour ce must qui finalement est un peu un must à nous trois, hein, parce que on y a plus ou moins joué, mais c'est surtout toi qui es vraiment à fond dedans. Hein.
Ah oui, moi j'ai objectif d'acheter toutes les boîtes.
Oh là là, putain, mais je crée un monstre.
Oui, t'as vu ce que je suis devenu à cause de toi.
Je m'amuse à cause de toi, je m'amuse. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis pire, c'est que j'ai acheté des figurines et je joue pas avec, tu vois. Donc ça, c'est pire, finalement.
Oui, mais moi, j'ai pas le temps, en fait, d'assez jouer. En fait, faudrait que je prenne le temps d'aller en boutique, jouer avec des gens, faire des games régulières.
Après, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si tu veux des figurines pour avoir des figurines et les peindre, c'est cool, tu vois. Et dans tous les cas, moi, comment j'ai fait pour avoir mon escouade, c'était d'occasion sur Le Bon Coin. Et voilà, il n'y a pas eu de problème là-dessus, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi les occasions en faisant gaffe, bien évidemment. Ok, et ben sacré must, et puis comment rebondir après ça?
Seul à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde.
Là, on a de la musique en fond là qui te fait balancer le cœur à 256 BPM. Ouais, et ben ça, c'est Tekken.
De la dubstep.
Non. Alors, de la psytrance, c'est un terme musical que j'ai découvert il n'y a pas longtemps où c'est vraiment de la musique très énervée qui est planante en fait. C'est fou parce que. Tekken, donc c'est Tekken 8, mon must, qui est un jeu sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sorti le 26 janvier 2024, donc voilà, on est quasiment à un mois d'écart, hein. et putain quel jeu, voilà, j'ai envie de dire, putain quel jeu, c'est dans mon top 3 de cette année, et on n'est que en février. est-ce que vous avez déjà joué à Tekken?
Bah, avec toi, oui.
Oui.
Voilà, juste avec moi, ok. Et toi, Erwan
Bah, moi, beaucoup, parce que j'ai eu la PS2, je suis un enfant de la PS2. Et évidemment, la PS2, hein, lisez les jeux PS1. Du coup, beaucoup de Tekken 3, comme beaucoup de gens qui ont joué à Tekken.
Ouais, ça, c'était la folie.
Beaucoup de Tekken, de Tekken Tag Team aussi.
Le Tekken Ball, notamment.
Le Tekken Ball, le fameux Tekken Ball. Et après, sinon, j'ai pas mal dosé Tekken 6, je crois, sur PS3.
C'est le 6, oui.
Ouais, j'ai pas mal dosé Tekken 6 et j'ai pas mal dosé Tekken versus Street Fighter. Qui ne se jouait pas comme un Tekken d'ailleurs, qui jouait comme un Street Fighter.
Et qui est le jeu de baston qui a failli enterrer la scène compétitive et la scène
du jeu. Ouais, et qui doit toujours avoir une suite hein, d'ailleurs. On doit toujours avoir le Street Fighter Cross Tekken 2 qui se jouera avec le gameplay de Tekken et pas le gameplay de Street Fighter. On n'a toujours aucune nouvelle. Ça fait je ne sais combien d'années qu'il est en développement.
Ouais, et qui sortira jamais je pense, parce qu'en fait déjà Street Cross Tekken, pour bien marquer que c'est un jeu Street Fighter avant tout... en vrai, sur le papier, c'était pas dégueulasse, mais c'est juste que le jeu est extrêmement mauvais et qu'il a imposé un système économique affreux où tout se base sur un système de gemmes qu'il fallait acheter ou débloquer, et ces gemmes, fallait les améliorer, et ces gemmes, en fait, donnaient plus de force, plus de rapidité, plus de blocage. Enfin, c'est le pire truc que tu puisses faire à un jeu de combat, quoi. Mmh. Et bien, vous savez quoi, Tekken 8, c'est pas du tout ça, c'est, je pense... Et sincèrement, je le dis en toute honnêteté, c'est le meilleur jeu de combat auquel j'ai joué de ma vie et le plus accessible pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de combat. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tekken, bah c'est quand même plus de 20 ans de jeux vidéo à vous faire un résumé du lore. C'est le jeu de combat vraiment où tu défonces la manette, appuies sur tous les boutons, tu fais des combos de fou et ça se fait tout seul et voilà, t'es content. Mais si tu joues en connaissant les techniques, tu arrives à un autre niveau, et cela n'empêche que le gars en face qui fait n'importe quoi en défonçant sa manette, eh ben il peut quand même s'en sortir.
Présent.
Et c'est pour ça qu'en fait j'adore déjà dans un premier temps Tekken, c'est parce que moi j'ai rien contre les gens qui font n'importe quoi, parce que on n'est pas dans une école militaire à dire « Non, c'est comme ça qu'on fait, machin, etc. » Voilà. C'est ça que je trouvais bien d'ailleurs avec Street Fighter 6, c'est parce que le 6, il apporte quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il a trois façons de jouer différentes. Mais là, Tekken 8, ça reste quand même assez facile d'accès pour n'importe qui, parce que les touches restent les mêmes. Connaître les combos, c'est un sacré exercice, et moi-même qui joue énormément, j'ai pas forcément envie d'apprendre tous les combos, j'y vais à tâtons, et c'est pas grave. J'arrive constamment à m'amuser sur ce jeu de combat 3D, où on va enchaîner des prises, où la simplicité du jeu étant que les 4 touches principales que vous avez sur votre manette, elles correspondent à point gauche, point droit, pied gauche, pied droit. C'est aussi simple que ça, suffit après d'appuyer sur un pied et un point pour savoir que ça fait une prise. C'est vraiment à la portée de tous, et le 8 a en fait cette volonté de mettre un terme un petit peu à ce lore bordélique qui est Tekken, parce que oui, les jeux de combat ont une histoire, ils ont des films qui sont adaptés, qui sont des catastrophes.
Le lore de Tekken est fou. Je tiens à rappeler que c'est quand même le seul jeu de combat où on peut jouer un ours et que c'est tout à fait normal. Hein.
Ouais, complètement. Et puis je vais aller faire un petit point aussi sur les personnages, parce que c'est ça aussi qui fait la force de Tekken, au-delà du fait que ce soit un jeu de combat facile d'accès, c'est qu'il parle à tout le monde. En fait, tu as des personnages de différents pays qui parlent dans leur propre langue et tout le monde se comprend. Donc tu vas vraiment avoir une scène où tu vas avoir un japonais, un coréen, une monégasque et un anglais. Ils vont tous parler dans leur propre langue et ils se parlent comme si vraiment ils comprenaient toutes les langues en fait. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand vous faites le mode histoire, que je parlerai après, c'est vraiment d'une limpidité folle quoi.
Oh bah oui, bah forcément, la sensation quand on est dans un univers où il y a un mec qui fait du catch avec un masque de tigre, un ours et un pantin en bois, voilà quoi.
On a une variété, une richesse dans le jeu qui fait vraiment ultra plaisir. Avec tout plein de styles de combat différents, on a autant du taekwondo qu'on a du karaté, qu'on a des arts martiaux chinois différents, qu'on a un exorciste.
La capoeira.
La capoeira, c'est vrai que Eddie Gordo n'est pas encore disponible parce qu'il sera dans le season pass. Voilà.
Eddie Gordo, le personnage favori des gens qui savent pas jouer. Pour le coup, l'histoire de Tekken, de t'appuyer sur n'importe quel bouton, ça sort des coups, c'est surtout vrai quand tu joues Eddie Gordo. Hein.
Ah oui, complètement, oui.
Eddie Gordo, c'est vraiment, tu appuies sur un bouton, tu fais des pirouettes dans tous les sens et tu fais fondre la vie de ton adversaire. C'est une dinguerie.
Mais en termes de personnages, ouais, vous avez le choix entre Vincent Cassel, une influenceuse café.
Oui, bah c'est très bien que tu parles de ça, parce que du coup, effectivement, on a pour la première fois un personnage français interprété par notre cher Vincent Cassel, et qui joue Victor Chevalier.
Ou Vincent Cancel.
Vincent Cancel, exactement.
Vincent Cancel, ouais.
Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est devenu mon personnage préféré, non pas pour son histoire ou quoi, mais juste par son gameplay. En gros, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un personnage français. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un mec qui a de la haute couture argent, avec des lunettes d'espion, avec un katana laser, des flingues à la John Wick, un couteau avec une espèce de lame à la Riddick, et le mec peut se téléporter. Et il peut faire des petites explosions au sol au cas où il ferait pas aussi mal et au cas où il serait pas aussi cheaté. Donc tu dis à quel moment t'as pensé à ça pour faire le représentant de la France dans un jeu de combat.
La France,
c'est délirant.
Et pas n'importe quoi.
C'est vraiment l'exception française quoi. C'est une certaine représentation de la France. Non mais en vrai c'est incroyable parce que du coup c'est ultra nanar. Hein, on va pas se cacher. Hein, rien que le résumé que j'ai raconté là c'est n'importe quoi. Mais ça assume sa connerie, et c'est ça que j'adore avec Tekken, c'est que ça assume son côté n'importe quoi, versatile, où ça part dans tous les sens. Et le mode solo, qui est donc bien scénarisé, avec des belles cinématiques, on voit quasi pas les transitions entre le moteur du jeu, où vous allez donc passer en mode combat. D'ailleurs, les combats sont ultra bien amenés, parce que c'est pas... Après, j'ai pas fait les derniers Mortal Kombat, mais je sais que t'avais cinématique, combat, cinématique, combat. Ils ont réussi à mixer les deux.
Bah, le dernier Mortal Kombat, du coup, Mortal Kombat 1 que j'ai testé et dont il faut que je paramètre les touches parce que je n'aime pas le système de jeu.
Oui.
C'est vraiment ça. C'est, tu as beaucoup de cinématiques, puis entre les cinématiques, t'as des combats qui ont plus ou moins un lien direct avec l'histoire.
Ouais, mais alors ça c'est le cas depuis Mortal Kombat 9 et moi c'est pour ça que j'achète les Mortal Kombat en majorité, c'est vraiment pour le scénario et le lore.
Voilà.
Je suis un vendu du lore de Mortal Kombat, moi j'adore Mortal Kombat, c'est une de mes franchises de jeux vidéo préférées, j'adore ça.
Et ben sache que dans Tekken 8 en fait ça assume entièrement son univers, bien qu'il soit foutraque, là où on aurait eu un reboot, un problème de voyage dans le temps, etc. Non, on reste vraiment sur la Terre, on a littéralement des forces armées qui se battent entre elles sur des champs de bataille avec des guns et t'en as qui vont au corps à corps parce que pourquoi pas, on a littéralement un boxeur qui esquive des balles de fusil sniper pour frapper quelqu'un au cac, pourquoi pas, tu vois, vraiment on est assez près de se dire c'est Torque mais en jeu de combat quoi. Et parce qu'en fait il y a une scène avec des motos où t'as littéralement un gars qui prend une bécane, il saute et il pousse la moto dans les airs pour faire taper un hélicoptère et pour faire descendre le méchant qui, bien sûr, n'a rien eu parce que c'est un méchant très très fort. Quoi. On est à ce niveau de conneries. Le tout en embrassant ce qui a été fait avant et en se permettant de faire des folies et de... J'aime pas dire ça, mais...
Entre tradition et modernité.
Voilà, ça ne crache pas sur son passé et c'est pour ça que le jeu, d'ailleurs, propose toutes les OST de tous les anciens Tekken, ce qui est déjà balèze. Et en plus de ça, quand vous jouez donc dans votre canapé avec un pote ou votre compagne ou qui sais-je, eh ben, vous avez déjà 32 personnages de base, ce qui est énorme, et vous avez 4 skins alternatifs déjà de base. Je vous rappelle qu'on est dans une ère où les skins sont payants dans beaucoup de jeux, et là où, pareil, on aurait pu jouer sur la nostalgie, si t'aimais bien le skin de Tekken 3, eh ben, tu peux l'avoir contre quelques euros, et eh ben là, pour la plupart des personnages, t'as des skins des anciens jeux gratos, de base. C'est à l'air con d'aborder ça comme ça, et ça devrait être normal, mais je rappelle que dans Street Fighter, si vous voulez débloquer tous les skins, vous en avez déjà pour plus de 100 balles. Et encore. Voilà. Donc, en fait, je fais depuis tout à l'heure des petits tacles à d'autres jeux de combat, parce que pour moi, vraiment, en fait, je pense que j'ai fait un petit constat là-dessus, parce que j'adore les jeux de combat de manière très globale, c'est qu'en fait, je pense que vraiment, j'ai pas honte de dire que Tekken, c'est ma licence de jeu de combat préférée, parce qu'elle apporte tellement de variété, de richesse, d'accessibilité aussi, et de fun immédiat. Et moi, c'est ce que je cherche dans un jeu, c'est vraiment que je m'abuse dans l'instant T. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donc c'est un jeu qui essaie d'être généreux, parce que je parlais du Tekken Ball, donc pareil, on revient sur des modes d'époque. On peut entièrement customiser ses personnages. Ça aussi, c'est improbable, parce que du coup, tu crées littéralement tes propres skins, et je me suis fait des trucs de taré. Faudrait que je vous partage un lien... dans la description, parce que j'ai littéralement fait le joueur du grenier.
Bah, sur ton Discord, hein.
Sur mon Discord, hein, oui, tout à fait, merci.
Ça
sur j'ai fait le...
Bah, voilà, après, je crois que la personnalisation des skins dans les Tekken, c'est un truc qui date d'il y a un petit moment, parce qu'il me semble que ça y était déjà dans le 6.
C'est ça. Sauf que là, c'est tellement poussé que tu as beaucoup de tenues.
De toute façon... Oui. De toute façon, Tekken et Soul Calibur, c'est les deux seuls jeux vraiment où tu peux faire de la personnalisation à balle de tes personnages, qui peut faire des skins comme tu veux.
Avec les jeux de catch.
Mais les jeux de catch, c'est différent, c'est un autre délire.
Oui, complètement.
Les jeux de catch, tu peux faire des Royal Rumble avec que des hommes politiques français, et ça, c'est quand même merveilleux.
En fait, j'ai fait que des personnages foutraques. Par exemple, j'ai vraiment réussi à refaire Luffy et Sanji de One Piece. En prenant le personnage adéquat à ça, par exemple Warwang, qui est le coréen taekwondo, bah, du coup je lui ai fait un skin de Sanji, et ça passe tellement bien. Enfin vraiment, tu te dis, ça aurait vraiment pu être un skin qu'on aurait pu te vendre, et non, pas du tout. J'ai pu refaire des personnages de d'autres licences, j'ai littéralement fait Morgan Freeman de dans Bruce Tout-Puissant, parce qu'il y a le personnage de Leroy, qui est un de mes préférés, qui est magnifique, quoi, avec son costard blanc, avec sa canne, etc. Il y a une présence de ouf, sauf que le mec, il te fout des patates Wing Chun, c'est vraiment un bonheur, quoi. Et là, le prochain que je vais me faire, c'est clairement le Colonel Sanders de
KFC.
Voilà.
Putain, parfait.
Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, je vais peut-être m'arrêter là, parce que vraiment, je pourrais en parler encore pendant des heures. C'est pour moi, vraiment, le meilleur jeu de combat et le meilleur jeu pour faire des soirées rapides où on s'abuse. Et là, si je pourrais donner un défaut, c'est que c'est un jeu donc nouvelle génération. Donc si vous l'achetez notamment sur console nouvelle génération, à savoir PS5 ou Xbox Series,
c'est cher.
Bah, vous allez l'avoir à 70 voire 80€. Et encore, il n'y a pas le Season Pass inclus. Donc,
Donc
c'est un peu triste. Ouais. C'est un peu triste. Donc voilà, donc ça fait déjà quand même pas mal de must. Hein. Donc chacun a droit à son must, et à vous aussi, chers auditeurs. Donc si jamais vous avez votre must de baston, bah, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et puis comme je l'ai dit au début de l'émission, eh bien le Discord, voilà, tout simplement le Discord existe, vous pouvez venir. On parle beaucoup de jeux vidéo et de plein de sujets, parce que c'est aussi le but du must, c'est d'aborder plein de médias différents, et voilà, donc là, la preuve, hein, on a parlé d'un jeu de société / jeu de figurines, on a parlé d'un documentaire, et on a parlé d'un jeu vidéo, voilà, donc en vrai, c'est stylé, quoi. Donc je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusque-là, on se retrouve dans pas très longtemps pour le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien, salut,
des bisous,
salut.